Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, le décès de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, les filles toujours victimes de discrimination, d'inégalité et de violence, la situation humanitaire en Haïti demeure inquiétante, et en dossier, nous reviendrons sur l'annonce faite par l'OMM des températures supérieures à la moyenne dans les mois à venir. Javier Pérez de Cuellar, le cinquième secrétaire général des Nations Unies, est décédé mercredi à l'âge de 100 ans. L'actuel chef de l'ONU, Antonio Guterres, a salué sa capacité à favoriser le dialogue et à diriger l'organisation au cours d'une décennie mouvementée. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Javier Pérez de Cuellar a pris la tête de l'ONU en 1982, après une longue carrière diplomatique. Citoyen du Pérou, il a été le premier et seul ressortissant d'un pays d'Amérique latine à occuper le poste le plus élevé de l'ONU à ce jour. L'actuel secrétaire général s'est dit profondément attristé par son décès et a qualifié l'ancien chef de l'ONU d'homme d'État accompli, de diplomate engagé et une source d'inspiration personnelle qui a laissé un impact profond sur les Nations Unies et notre monde. Antonio Guterres a noté que le mandat de son prédécesseur a coïncidé avec deux époques distinctes dans les affaires internationales. D'abord, certaines des années les plus glaciales de la guerre froide, puis, avec la fin de la confrontation idéologique, une période où l'ONU a commencé à jouer plus pleinement le rôle envisagé par ses fondateurs. En 1982, son mandat en tant que chef de l'ONU a commencé par d'intenses négociations entre le Royaume-Uni et l'Argentine sur la souveraineté contestée des îles Falkland, Malvinas. Il a joué un rôle crucial dans un certain nombre de succès diplomatiques, y compris l'indépendance de la Namibie, la fin de la guerre Iran-Irak, la libération des otages américains détenus au Liban, l'accord de paix au Cambodge et dans ses tout derniers jours au pouvoir, un accord de paix historique au Salvador. Bien après la fin de son mandat de secrétaire général en 1991, il est resté fidèle aux valeurs de l'ONU et a continué de plaider pour la paix, la justice, les droits de l'homme et la dignité humaine.
25 ans après la conférence de Beijing, l'ONU tire un bilan mitigé des avancées pour les filles et les femmes. Selon un rapport conjoint de l'UNICEF, d'ONU Femmes et de l'ONG Plan International, malgré des progrès remarquables en matière d'éducation, les filles font toujours l'objet de discriminations, d'inégalités et de violences. Prerna Banati est spécialiste des questions de développement, d'adolescence et de genre au bureau régional de l'UNICEF à Dakar. Elle revient sur la situation des filles en Afrique de l'Ouest et centrale.
En Afrique de l'Ouest et du centre, plus de filles que jamais terminent l'école primaire. À l'échelle mondiale, le nombre de filles non scolarisées a diminué de 79 millions au cours des deux dernières décennies, passant de 200 millions en 1998 à 129 millions aujourd'hui. Pourtant, près d'une fille sur quatre âgée de 15 à 19 ans n'a ni emploi, ni éducation, ni formation, contre un garçon sur 10 du même âge. Ce qui montre que dans la transition entre l'apprentissage et le travail, les filles sont laissées loin derrière. Environ 28% des enfants âgés de 15 à 19 ans sont des NEET, c'est-à-dire qu'elles n'ont ni emploi, ni éducation, ni formation. Rien qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Niger, au Togo, près de 3,8 millions de filles n'avaient ni emploi, ni éducation, ni formation en 2015, soit près de 1,5 fois plus que les garçons du même âge.
La situation humanitaire en Haïti est des plus inquiétantes, d'où l'appel lancé cette semaine par les Nations Unies. L'organisation demande 253 millions de dollars pour venir en aide à 2,1 millions d'Haïtiens les plus vulnérables, menacés par l'insécurité alimentaire, par des crises chroniques et des situations conjoncturelles, notamment les événements climatiques et les tremblements de terre. Les explications de Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies en Haïti.
Ce qui fait que ces chiffres sont tellement importants cette année, c'est qu'à ces situations normales, entre guillemets, c'est ajouté une crise politique et son impact sur l'économie haïtienne, donc une crise socio-économique qui a elle-même entraîné des problèmes sécuritaires. Donc il y a eu pendant plusieurs mois en 2019 ce qu'on a appelé « pay lock », c'est-à-dire « lockdown ». Le pays a été en gros bloqué pendant plusieurs mois avec d'énormes conséquences sur la situation sécuritaire, sur l'accès aux services. Les écoles ont fermé, les soins de santé, etc. Les hôpitaux n'ont plus de médicaments, etc. Les mouvements des biens et des personnes ont été sévèrement impactés. Et puis le fonctionnement de l'économie, donc le fonctionnement du marché. Donc tout ça, ça a entraîné un blocage du pays qui a entraîné des grosses conséquences humanitaires. Donc le 4.6, c'est 40% de la population haïtienne, ce qui est un chiffre énorme. Encore plus grave, c'est la situation de l'insécurité alimentaire, puisque parmi ces 4.6, 4.1 sont dans ce qu'on appelle les IPC, Donc IPC, qui est l'indice de sécurité alimentaire, 3 et 4, c'est une échelle qui va de 1 à 5, et 5, c'est la déclaration de famine, ce qui est très rare dans le monde, on déclare des famines. Donc il y a 4,1 millions de personnes qui sont donc en situation d'urgence ou d'extrême urgence alimentaire, 1,2 en extrême urgence alimentaire, la phase d'après, c'est la famine.
De nombreuses régions du monde devraient connaître des températures supérieures à la moyenne dans les mois à venir, même en l'absence du phénomène El Niño, connu pour réchauffer le climat. C'est ce qu'a déclaré lundi l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. On en parle avec Wilfried Mufuma Okia, spécialiste des prévisions climatiques à l'OMM.
Les faits saillants de ce bulletin, alors juste pour rappeler, l'Organisation météorologique mondiale publie un bulletin trimestriel sur l'état d'évolution du phénomène El Niño. En simple, El Niño, c'est un réchauffement de l'océan Pacifique au niveau du centre de l'équateur. Et donc, l'effet saillant du bulletin qui est paru il y a deux jours déjà, le 2 mars, c'est de dire que les conditions El Niño sont neutres. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à voir El Niño. Le bulletin propose également une estimation des probabilités. Alors, pour faire simple, les outils utilisés pour anticiper l'évolution d'El Niño, c'est des modèles numériques qui combinent de la physique, de l'informatique. Et ces modèles nous disent, ils ne sont pas produits par l'Organisation mondiale météorologique, mais par les grands centres de production mondiaux. Or, ils sont 13 sur la planète, aux États-Unis, en France, au Japon et un peu ailleurs. Et donc, ces modèles nous disent que avec une probabilité de 60%, on peut dire que pendant la période mars à mai 2020, on restera dans des conditions neutres. Et puis, en ce qui concerne El Niño, on a juste 35% de chances d'être dans des conditions El Niño. Or ça, c'est l'effet saillant. En gros, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'indicateur El Niño n'est pas le seul phénomène qui peut causer des changements brusques dans l'atmosphère. Il y a d'autres indicateurs.
Justement, aussi, ce communiqué parle de l'oscillation australe ou le ENSO. Donc, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce ENSO et qu'est-ce que cela permet, justement?
Oui. Alors, pour ENSO, ENSO qui se traduit, ça vient de l'anglais, qui veut dire El Niño Southern Oscillation. En gros, c'est le phénomène El Niño. Alors, on va dire que tous les 3-4 ans, vous avez au niveau de l'océan Pacifique, au niveau de l'équateur, un réchauffement qui est naturel. Alors, il n'y a personne qui le cause, il arrive comme ça. Et alors, les eaux de surface se réchauffent. Ça a pour conséquence de changer la circulation atmosphérique. Or, les vents, les pluies, et souvent, le phénomène El Niño est associé à des sécheresses, des inondations un peu partout dans le monde. Et dans beaucoup de pays, un moyen d'anticiper les sécheresses ou les inondations, c'est de surveiller l'évolution d'El Niño, parce qu'ils ont trouvé des corrélations entre le phénomène d'El Niño et puis ce qui arrive dans beaucoup de régions du monde.
Donc, on dit que pour cette période, il n'y aura pas de El Niño. Mais sans El Niño, qu'est-ce qui peut provoquer justement un réchauffement?
Et en fait, c'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que autant de nombreuses sociétés, de nombreux pays suivent attentivement l'évolution d'El Niño, mais dans l'atmosphère, dans le système climatique, il y a d'autres facteurs. Et un des facteurs importants, c'est celui qu'on appelle le dipôle, par exemple, de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre, il y a eu des inondations en Afrique de l'Est qui étaient liées à ça. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'El Niño qui est dans l'océan Pacifique. Et le dipôle de l'océan Indien, c'est qu'on trouve dans l'océan Indien une différence de température entre la partie Est et la partie Ouest. Et souvent, dans la partie la plus chaude, elle est accompagnée de pluie. Les pluies sont les plus marquantes parce que c'est ce qu'on observe ou bien c'est ce qui affecte le plus, mais on a des pluies, on a des sécheresses, on a des vents, enfin, toute la circulation est modifiée.
Et est-ce que justement, on parle énormément du changement climatique, est-ce que ce changement climatique est un des facteurs, si ce n'est pas El Niño ou El Niña, est-ce que justement le réchauffement de la planète, est-ce que ça peut aussi provoquer des anomalies?
Oui, pour le réchauffement climatique, les scientifiques disent que ce qui est en toile de fond, donc on a la tendance du réchauffement qui se superpose à tout ça. Or, ce qu'il faut noter, c'est que El Niño et les autres phénomènes, ils font partie de ce qu'on appelle la variabilité naturelle du système. Mais à cela, il faut rajouter le réchauffement qui amplifie ces fluctuations.
Donc, peut-être en dernière question, va-t-on avoir une année la plus chaude en 2020?
Pour dire que l'année sera la plus chaude ou pas, je pense qu'on va attendre la fin de l'année. Mais ce qui est vrai, la tendance est au réchauffement.
Fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.